Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger ? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote !
France Inter.
Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous, membres de Côté Club. Entrée libre chaque soir de 22h à 23h avec Marion Guilbault en physionomiste à la porte du studio 621 de la Maison de la Radio et de toutes les musiques. Bonsoir Marion.
Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde.
Vous laissez entrer tout le monde quand même.
Bien sûr, c'est ouvert. Entre vos oreilles.
Côté club, en direct avec le meilleur de la scène française ce soir qui donne tout pour la musique. Exercice de style, exercice d'admiration avec nos deux invités, Cyril Mokayesh et Arthur Teboul. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Arthur Teboul, vous signez le Déversoir, recueil de 98 poèmes minutes. Minutes, car oui, soumis à un dogme, une écriture à toute vitesse, en plus de 5 minutes, en moins de 7, comme un jaillissement, une déflagration, feu sans Chatterton. À vos côtés, c'est Cyril Mokayesh. Il rend hommage à Georges Moustaki dans un album bien nommé Le Temps de Vivre pour célébrer le 10e anniversaire de sa mort. Un spectacle aussi, Mokayesh chante Moustaki, où vous prenez la parole à la première personne car il y a quelque chose de Moustaki en vous. Pas simplement la barbe. Marion ?
C'est le retour de l'algorithme musical. Dis-moi ce que tu écoutes et je te dirai ce que tu vas aimer. C'est fait maison dans Côté Club et c'est vers 22h30.
Il n'y a pas un peu d'intelligence artificielle ?
Pas du tout, de la bêtise naturelle.
Côté Club, c'est ouvert entre vos oreilles.
Côté Club, Laurent Goumard sur France Inter.
Ouverture avec Zao de Sagazan. Vous connaissez Arthur Teboul ?
Ouais.
Vous connaissez l'album ?
Ouais.
Vous l'avez vu en concert ?
Non.
Super en concert. Ouais. Et vous, Cyril Mokayesh ?
Oui, je connais aussi, j'aime bien. Ouais.
Et en concert ?
Pas encore.
Eh ben non, il va falloir s'y mettre. Tout de suite, tristesse et beauté dans Côté Club.
Qui va la tristesse ? Vous ne m'aurez pas ce soir. J'ai enfin trouvé la sagesse et désormais les pleins pouvoirs. Quelle audace de me faire croire que je ne suis qu'un pauvre pantin. Manipulé par vos mains dégueulasses de désespoir. Marionnettiste je suis et sûrement pas l'inverse. Les émotions sont des couleurs, je suis le peintre qui les renverse. Et sûrement pas l'inverse. Qui va la tristesse ? Vous ne mourrez pas ce soir. J'ai enfin trouvé la sagesse et désormais les pleins. Je ne suis qu'un pauvre pantin, manipulé par vos mains dégoulinantes de désespoir. Marionnettiste je suis et sûrement pas l'inverse. Les émotions sont des couleurs, je suis le peintre qui les renverse. Marionnettiste je suis et sûrement pas l'inverse. Qui va là ? Qui va là ? Qui va là ? Ça c'est pas moi. Mais qui va là ? Mais qui va là ? Qui va là ? Tristesse, dégage de là. Marionnettiste je suis et sûrement pas l'inverse. Contrôle total des sentiments, la tristesse me déteste. Marionnettiste je suis et sûrement pas l'inverse. À part mes pulsions de création, je contrôle. Je contrôle tout le reste. Je contrôle tout le reste.
Pour tout vous dire, il arrive des fois qu'elle arrive et que j'ai beau tout faire, tout dire pour la faire partir, elle reste là. Et en fin de compte, je me demande même si elle serait pas là un peu tout le temps. Tristesse est là et... Tristesse.
Marionnette, on est et on le reste. Marionnette, on est et on déteste.
Et nous, on l'adore. Arthur Teboul et Cyril Mokayesh ont rendez-vous dans Côté Club ce soir, en direct. Question inaugurale. Déjà rencontrés ?
Ouais, on a chanté ensemble.
Ouais, c'était un super souvenir pour moi. C'était juste avant le confinement. Je crois qu'on était enfermés cinq jours après. Mais Arthur m'avait fait le grand plaisir de venir chanter avec moi au Trianon une chanson de Dominica, une sorte de chanson de marin désespéré.
Marée haute, ouais.
Marée haute, absolument. Ouais.
Donc je ne vais pas faire les présentations. Si, un petit peu. Exercice de style pour vous, Arthur Teboul, avec un recueil de poèmes. Minute, le déversoir, ça c'est le titre. Vous en expliquez le titre à Cyril Mokayesh. Moi je connais toute l'histoire, mais lui il ne connaît pas.
Je me suis un peu renseigné quand même.
Vous savez ce que c'est alors? Le déversoir c'est quoi?
Ce sont des poèmes écrits sur le principe de l'écriture automatique.
Ouais.
Donc en essayant de coucher sur le papier ce que la pensée nous dicte. C'est-à-dire en ne la passant pas au filtre... de l'envie de plaire, de l'amour propre, du désir de virtuosité, etc. quoi, en acceptant ce qui vient sans attente, sans préoccupation esthétique et morale.
En toute improvisation. Mais le déversoir, c'est aussi un lieu. C'est devenu un lieu à Paris.
Oui, c'est un cabinet qui est rue de Turenne à Paris.
Au 108.
Ouais, et c'est un endroit où j'ai reçu toute la journée. Pendant une semaine entière, là je le fais un peu plus épisodiquement, mais où j'étais à plein temps, j'ai vu une quarantaine de personnes par jour pendant une semaine, donc ça fait 250 personnes, des visiteurs qui viennent en tête à tête s'asseoir dans le bureau, dans le cabinet en face de moi, et pour lesquels j'écris en leur présence, en quelques minutes, un poème automatique, à la manière de ceux du recueil, que je leur dis et que je leur remets ensuite.
Qu'est-ce qu'ils font pendant ce temps-là, pendant que vous écrivez ?
Alors... comme je les invite à ne pas me regarder pendant ce temps-là,
pour
ne pas
être trop déstabilisé. Ça,
ouais. Je l'exige pas, je le suggère. Eh bien, pendant quelques secondes, les gens sont un peu décontenancés, et puis très vite, une intimité s'installe, aussi parce que j'ai accroché au mur un tableau que je les invite à regarder, qui leur permet de ne pas se tourner en eux-mêmes sans rien faire. Alors la plupart du temps, finalement, les gens regardent à l'intérieur d'eux-mêmes, mais ils commencent par observer ce tableau.
Qui représente quoi ?
C'est un mouvement de danse, c'est un croquis d'Henri Matisse. On a eu la chance, en plus, d'avoir un original qui nous a été prêté par la Galerie Dina Vierny. Et donc, je me disais qu'au pire, même si le poème n'était pas satisfaisant pour le visiteur, au moins aurait-il eu quelques minutes en présence d'une beauté pure.
Exercice de style donc pour vous, exercice d'admiration pour Cyril Mokayesh avec Le Temps de Vivre, un album hommage à Georges Moustaki au moment où l'on célèbre les 10 ans de sa disparition. Il aurait eu 89 ans le 3 mai dernier, reprendre Moustaki après 7 albums. Comment faut-il comprendre ce geste ? D'autant plus qu'on sait que Moustaki, vous l'avez découvert il y a quelques temps, mais peu de temps en fait.
Ouais, c'est ça, parfois on se pose pas trop de questions. On m'a proposé de me pencher sur son œuvre et sur sa vie. Des amis proches, très proches. On prenait le soleil en vacances et puis j'ai commencé à lire Les Filles de la Lumière, de la Mémoire, pardon. Et j'ai découvert en même temps ses chansons et en même temps sa vie. Alors j'étais très surpris parce qu'on dit il a une réputation d'être nonchalant, voire même paresseux. Je crois que Beko l'appelait Monsieur Devolt, ou quelque chose comme ça. Et quand on voit l'intensité de sa vie, ça donne envie, en tant que jeune artiste, de voyager, de poétiser, de s'engager aussi. Ouais, sont des traces sur lesquelles on a envie de marcher.
On va revenir sur son parcours. La chanson par laquelle vous avez découvert Moustaki, c'est laquelle ?
Et pourtant dans le monde.
Et ça donne ça.
Tu me diras que j'ai tort de chanter la révolution et la liberté, que tout ça ne sert à rien, que ce n'est pas encore pour demain. Et pourtant dans le monde.
Version Moustaki, version Mokayesh.
Tu me diras que j'ai tort de chanter la révolution et la liberté, que tout ça ne sert à rien, que ce n'est pas encore pour demain. Tu me diras que j'ai tort de rêver en croyant vivre la réalité.
Qu'avez-vous entendu dans cette chanson qui vous a autorisé à entrer dans son répertoire, Cyril Mokayesh ?
J'ai entendu un allié, quoi. J'ai entendu parfois dans la vraie vie, on rencontre quelqu'un, on sait qu'on va faire un bout de chemin ensemble. Et là, il y a des rencontres artistiques qui sont aussi nourrissantes. Et quand j'ai entendu le couplet qu'on vient d'entendre, tu me diras que j'ai tort de chanter la révolution ou la liberté, que tout ça ne sert à rien, et pourtant dans le monde d'autres voix me répondent. Ouais, j'ai eu envie d'y croire et puis j'ai envie de le dire même.
Arthur Teboul, si on vous avait proposé de reprendre le répertoire d'un chanteur, auteur, compositeur, interprète, vous auriez pensé à qui de votre côté ?
C'est délicat parce que quand on pense à ses idoles, on n'a pas envie d'y toucher. Donc ce pas de côté, au fond, Moustaki, ça me donne envie de me pencher sur son répertoire parce que moi je connais son adaptation des Eaux de Mars, que tu as reprise aussi.
Ouais.
Et quelques chansons assez connues qu'il a écrites pour Barbara, par exemple. Mais je me dirais bien Moustaki.
Vous allez voir tout à l'heure. Marion, vous vouliez dire quelque chose ? D'accord, je continue. Donc dans cet album de reprise, on a choisi un titre moins connu, La Déclaration, peut-être un mot pour présenter ce titre.
Ouais, c'était une grande surprise d'entendre Moustaki dans ce genre de chansons qui est vraiment déclamée. Je vais pas dire que c'est sa plus Léo Ferré, mais quand même, c'est celle où il se permet de dire des mots que j'aurais... Il le dit toujours avec une espèce de tendresse, pas un sourire en coin sur ce coup-là, mais une féminité, quelque chose de sensuel. Et il peut dire les choses les plus rudes, en tout cas, de dire « je déclare l'état de bonheur permanent, d'accord, mais sans que ce soit voté dans aucun parlement ». Oui, ça résonne. Et puis c'est peut-être que moi j'ai fait un pas vers Moustaki avec grand bonheur. Et là, j'avais l'impression aussi de pouvoir me retrouver aussi dans son style.
Déclare l'état de bonheur permanent et le droit de chacun à tous les privilèges. Je dis que la souffrance est chose sacrilège quand il y a pour tous des roses et du pain blanc. Je conteste la légitimité des guerres, la justice qui tue et la mort qui punit. Les consciences qui dorment au fond de leur lit, la civilisation aux bras des mercenaires. Je regarde mourir ce siècle vieillissant, un monde différent renaîtra de ses cendres, mais il ne suffit plus simplement de l'attendre. Je l'ai trop attendu, je le veux à présent. Ma femme soit belle à chaque heure du jour, sans avoir à se dissimuler sous le phare, et qu'il ne soit plus dit de remettre à plus tard l'envie que j'ai d'elle et de lui faire l'amour. Que nos fils soient des hommes, non pas des adultes, et qu'ils soient ce que nous voulions être jadis. Que nous soyons frères, camarades et complices, au lieu d'être deux générations qui s'insultent. Que nos pères puissent enfin s'émanciper et qu'ils prennent le temps de caresser leurs femmes. Après toute une vie de sueur et de larmes et des antres de guerre qui n'étaient pas la paix, déclare l'état de bonheur permanent, sans que ce soit des mots avec de la musique, sans attendre que viennent les temps messianiques, sans que ce soit voté dans aucun parlement. Je dis que désormais nous serons responsables, nous ne rendrons de compte à personne et à rien. Et nous transformerons le hasard en destin, seul à bord, et sans maître, et sans Dieu, et sans diable. Et si tu veux venir, passe la passerelle. Il y a de la place pour tous et pour chacun. Mais il nous reste à faire encore du chemin pour aller voir briller une étoile nouvelle. Je déclare l'état de bonheur permanent. Thank you.
C'est la déclaration de Georges Moustaki dans la version, dans votre version, Cyril Mokayesh, avec des arrangements de Romain Humeau. Quel était votre cahier des charges pour reprendre son répertoire, ce qui n'est pas un exercice facile? Que fallait-il éviter?
Les machines électroniques, pourtant j'adore ça, mais là sur cet album, c'était indispensable à l'heure de l'intelligence artificielle de faire au moins l'honneur à l'œuvre de Georges Moustaki, qui est, que ce soit joué avec nos mains, avec nos cordes, nos voix. Et je salue Romain Humeau pour le brillant travail qu'il a fait. C'était une rencontre importante aussi, peut-être dans la suite de ma carrière. Et non, on s'est penchés tous les deux, on n'a pas sacralisé ces chansons, parce que quand on sacralise quelqu'un, on n'ose pas aller lui parler. Donc là, on a respecté le travail en essayant de faire quelques petits twists harmoniques, mais en restant organique, je vais dire.
J'imagine que vous avez contacté sa fille, Pia, qui vient de sortir d'ailleurs un livre où elle parle de son enfance avec son père. Le livre s'appelle « Fille de Métèque ». Est-ce qu'elle avait des exigences, des interdits? Vous avez eu carte blanche?
Ouais, j'ai eu carte blanche et puis je crois qu'elle a apprécié la démarche. Je sais pas si j'étais sa fille aussi, peut-être que déjà je serais content que la mémoire de mon père perdure, et par chance, je crois qu'elle a à peu près apprécié ce qu'on a fait. Donc
elle vous a montré des choses, elle vous a fait écouter des, je sais pas, sa voix, des entretiens.
Oui, oui, bien sûr, elle a fait un magnifique mémorium dans Paris, dans le 5e, dans lequel elle a reconstitué l'appartement de Georges Moustaki. Et c'est très inspirant, c'est vrai.
Ça ressemble à quoi, son appartement?
Bah, beaucoup de photos, beaucoup d'instruments de musique, beaucoup de costumes blancs dans les placards.
Ça, vous l'avez adopté pour la scène, hein.
Et quelques mots comme ça, je me souviens, il y a un mot de Léo Ferré qui traîne sur une étagère et qui marquait « Tu murmures ce que je hurle, Georges ». Ça m'a beaucoup marqué. Et puis plein de photos avec les gens admirables qu'il a pu rencontrer et qui lui ont inspiré des chansons, Barbara, Piaf.
Vous servez cet univers, justement, dans votre spectacle, puisque vous avez ce spectacle « Mokayesh chante Moustaki ».
Oui, je me sers, en tout cas, c'est instinctif, hein, c'est tout ce que j'ai pu ingurgiter comme information, comme émotion, j'essaie d'y mettre sur scène, oui, quelques clins d'œil, la tenue blanche, le fait que je dise était important pour moi, parce que je pense que s'il y avait une distance et que je disais à chaque chanson, bah voilà,
il a fait ci, il a fait ça,
en sortant des deux jazzés, il a rencontré un tel, ça aurait, je pense, c'était très barbant. Et voilà. Et du coup, ça m'a permis aussi de mettre un pied dans un espèce de jeu qui est assez excitant, une mise en scène de Pascal Bérel, qui fait que voilà, on traverse sa vie tranquillement à son image. Et j'espère qu'on voilà, on découvre des choses et on se fait surprendre de temps en temps.
Vous connaissez un petit peu la vie de Moustaki?
Non,
Arthur Teboul, non. Le fait que, par exemple, bien, il a été l'amant d'Edith Piaf, pour qui il a écrit Milord, c'est lui qui a écrit Milord en 59, Milord que vous reprenez. Il y a aussi les compositions cultes, hein, pour Serge Reggiani, Sarah, votre fille à 20 ans, Ma solitude, que vous reprenez, Cyril Mokayesh. Il y a aussi son engagement en 68, puisqu'il est allé chanter chez Citroën, je crois, avec Higelin, c'est ça, auprès des ouvriers. Qu'est-ce que vous avez appris de son parcours qui vous a particulièrement marqué? Parce que quand on fait un disque sur quelqu'un d'autre, bien sûr, c'est une sorte d'autoportrait. Qu'est-ce que vous avez appris de lui qui vous engage à ses côtés?
Je dirais que c'est à une époque aujourd'hui où on peut vite trouver un peu tout dégueulasse. J'aime bien sa manière de prendre la vie, comme il le dit, avec un espèce d'optimisme amer et un pessimisme gai. C'est une manière de pouvoir quand même regarder son époque dans les yeux, mais de lui sourire de temps en temps, de lui tourner le dos, de faire un pas de côté, d'être capable aussi de dire les choses, mais sans brutalité, mais sans trahir ses opinions, et en même temps en profitant des rencontres qui se sont accumulées dans sa carrière et en vivant des moments avec une grande liberté, une grande élégance, quoi.
Quand vous chantez ces chansons, est-ce que ça a changé quelque chose dans votre façon d'interpréter? Vous venez du rock, hein, tout le monde le sait. J'imagine que quelque chose change quand on interprète Moustaki.
Ça fait un moment que je pense j'ai envie de pouvoir dire les choses toujours avec la même crudité par moment, poésie à d'autres, mais peut-être avec une forme un petit peu plus contenue. Alors c'est peut-être mon âge qui avance, mais aussi j'ai eu la chance de faire, ça a été très formateur, de faire beaucoup de premières parties avec Bernard Lavilliers, et je me souviendrai, oui, que lui le premier m'a dit quand tu chantes Mon Époque ou quand tu chantes des choses comme ça très dures, tu sais, les mots les mots les plus durs, il faut le dire avec la plus grande tendresse, comme si tu le murmurais à l'oreille de quelqu'un, tu vas voir que ce sera encore plus audible.
Alors, à l'occasion de cette date d'anniversaire, donc les 10 ans de la disparition de Moustaki, on vient de publier une anthologie de 50 titres, l'album de sa vie. Il y a la réédition du vinyle Le Métèque. Le Métèque, c'est mai 69, avec Alain Goraguer aux arrangements. Et ce titre, bien sûr, qui lui colle à la peau avec ce son devenu classique.
Avec ma gueule de Métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire.
La voix de Moustaki, les arrangements sublimes de Goraguer, on est en 69. J'imagine que l'exercice ne doit pas être facile. Comment on reprend, comment on réarrange une chanson mythique, Le Métèque, que tout le monde attend? Et bien sûr, c'est la première que je suis allé voir quand j'ai écouté l'album, Cyril Mokayesh.
Dans ces cas-là, je me pose zéro question. Ouais. Parce que sinon, on ne fait pas les choses, on ne met pas le costume blanc, on ne va pas sur scène en disant « je », on ne reprend pas Le Métèque. Mais je crois que là... l'impulsion vient aussi de Romain Humeau, où il y a une espèce d'arrangement de piano très romantique qui peut rappeler d'ailleurs encore une chanson de Ferry qui s'appelle Nous deux. Enfin, moi, ça m'a fait penser à ça. Et lui disait Moustaki, parce qu'elle a été très interprétée d'une manière très politique, cette chanson. Et lui disait tout simplement qu'elle parlait d'amour. Donc, on a essayé d'aller dans un sens vraiment très généreux et très amoureux.
Avec ma gueule de métèque, de juifs errants, de pâtres grecs, de voleurs et de vagabonds. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire.
Arthur Teboul, je vous vois écouter la version de Cyril Mokayesh, les yeux fermés, très attentif, hyper concentré.
Ouais, depuis tout à l'heure, je découvre l'album, c'est très beau, la déclaration aussi. C'est à la fois un travail de passeur et un travail du cœur. Et ça... C'est double chose, pour moi qui vous écoute maintenant, c'est un grand plaisir, quoi.
Un mot sur le choix des reprises. Déjà, on a une piste avec le titre que vous avez choisi pour l'album, Le Temps de Vivre. Le Temps de Vivre, c'est une chanson politique que Moustaki avait composée pour un film sur la vie d'un maçon, un film de Bernard Paul. Plus loin, on trouve Portugal, là encore une chanson politique, écrite pendant la Révolution des œillets, une dénonciation de la dictature de Salazar. Le Moustaki politique, c'est quelque chose qui intéresse celui qui a chanté Les Insurgés ? J'imagine, et la commune, communiste plutôt, Cyril Mokayesh.
Oui, ça fait partie de son œuvre et c'est un endroit aussi que j'aime bien défendre dans mes chansons. Et c'est vrai que là, il y avait qu'à choisir une chanson comme Portugal, où effectivement on pourrait changer le nom des villes dans cette chanson. Il parle de la guerre du Vietnam, ça pourrait évidemment se passer à l'est du monde, ou de la révolution des œillets, on pourrait penser à l'Iran. Les choses n'ont pas énormément changé. Mais encore une fois, sa manière d'écrire et d'interpréter fait que je trouve le message toujours assez, toujours assez universel et simple en fait. Il n'y a pas de revendication, de volonté de prouver, de jouer à celui qui sait le mieux et qui impose le plus. Il y a juste une volonté d'être témoin de son époque, passeur. Et moi j'aime bien les chansons, c'est vrai, qui marquent un fait historique. Je trouve dans les films aussi, j'aime bien ça. Je trouve que ça tamponne un artiste, une époque, et sont des chansons qui restent, quoi.
Cyril Moukaïech, si je vous dis la loi de marché, vous pensez à qui ?
La loi du marché ? Ouais. Je pense à Stéphane Brisé, à Vincent Lindon d'abord, et puis après à Bernard Lavilliers, évidemment.
Mais bien sûr, il y a 7 ans, depuis Bernard Lavilliers a repris les routes d'Argentine, le piéton de Buenos Aires fait une halte sur France Inter.
Je marche seul dans Buenos Aires. Personne ne demande qui je suis. Dans cette ville, dos à la mer, qui vibre encore de l'Italie. Je marche seul dans Buenos Aires. Je sais que je n'ai rien compris, mais cette odeur m'est familière, comme un secret jamais écrit. Buenos Aires, un port à l'envers, où les marins restent à leur bord. Les Argentins rêvent d'hier, et puis des chants du mal d'aurore. Dans le carré de tes artères, américaines dans l'esprit. Des transversales singulières me disent André, si tu me suis, je te prouverai le contraire. Si tu pénètres dans ma nuit, je marche seul dans Buenos Aires. Personne ici m'explique ce que je dois y faire. Je sais pourquoi je suis ici. Je marche seul dans Buenos Aires, qui s'étale comme la lune, en croissant au bord de la mer. Elle se réfugie dans la brume. Elle est belle, elle a ses mystères et sa tendresse pour celui qui n'élève la voix ni le fer. Elle sait pourquoi, elle sait pour qui. Dans le carré de tes artères, américaine dans l'esprit. Des transversales singulières me disent hombre, si tu me suis, je te prouverai le contraire. Si tu pénètres dans ma nuit, Buenos Aires. Un port à l'envers, où les marins restent à leur bord. Les Argentins rêvent d'hier, et puis des chants du mal d'aurore. Je marche seul dans Buenos Aires. Je ne dirai jamais qui je suis. De toutes mes vies, la dernière et la seule qui me donne envie de marcher seul dans Buenos Aires. De marcher seul dans Buenos Aires.
Et c'est le retour au studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique avec un nouvel exercice de style, l'algorithme de Marion Guilbeault.
Côté club,
l'important, c'est le goût des gens, pas ce que sont les gens.
Côté
club.
Club
sur France Inter. Je vous rappelle le principe de l'algorithme musical. Je fouille dans vos ADN musicaux respectifs. Arthur Teboul, Cyril Mokayesh, je croise les infos, je mouline le son, je cherche et je vous propose quelque chose de nouveau à découvrir, voire à aimer. On commence avec le premier disque acheté. C'est souvent un achat important, un marqueur, mais pas toujours révélateur de la suite. Surtout pour vous, Arthur Teboul, avec ce titre-là. On n'est pas dans le vestiaire des Bleus, on est au studio 621 avec Arthur Teboul. Racontez-nous Freed from Desire, la chanteuse et compositrice italienne Gala.
Ouais, j'avais 10 ans.
Ouais.
J'avais 10 ans, Jean de chez le Buralis, c'est le premier disque que j'achète seul et c'est une joie immense, quoi. Parce qu'on oublie, voilà, on fait des chansons, ça nous permet de faire passer des messages, mais il y a quelque chose d'inexplicable, du frisson qu'on ressent quand on écoute une chanson enfant et qu'elle nous fait nous sentir plus vivants. On ne sait pas par quoi ça passe. J'écoutais cette chanson en boucle. Et puis, il y a aussi cette joie, à cet âge-là, d'affirmer son indépendance. Ah bah, pour le meilleur, pour le pire. Hein, mais il y avait aussi Wes, plein de super chansons du Hit Machine.
C'était Hit Machine.
J'ai beaucoup écouté, ouais.
De votre côté, Cyril Mokayesh, c'est de l'autre côté de l'Atlantique que ça se passe, avec un chanteur sulfureux, iconique des 60s. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. Jim Morrison, donc, avec Les Doors sur People Are Strange, 1967. Bon, vous n'étiez pas né, donc qu'est-ce qui vous plaît la première fois que vous écoutez la voix de Jim Morrison, le son des Doors?
Non, mais ce qui me plaisait surtout en achetant ce disque, c'était de faire plaisir à mon frère et de passer pour quelqu'un
de cool.
De cool, exactement. c'est mon aîné de 10 ans et j'adorais faire plus grand que mon âge et essayer de fraterniser de manière cool avec lui. Donc je me souviens d'avoir acheté ça à Rita Franklin aussi. Je captais rien du tout, j'avais à peu près 10 ans aussi. Et en secret, j'écoutais Gala, ouais.
Bien sûr. Alors je poursuis avec votre idole absolue en musique. Pour vous, Arthur Teboul, on reste dans les 60s avec celui qui a amené l'écriture rock et folk jusqu'à sa plus haute distinction, un prix Nobel de littérature. Guilty undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn, but it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you. Bob Dylan, I want you. Qu'est-ce que vous trouvez chez lui qui a pu vous guider dans votre écriture, Arthur Teboul?
Chaque fois que je l'écoute, il y a une contagion. Je trouve que Bob Dylan est extrêmement contagieux. Je crois que c'est ce qu'on essaye de faire quand on croit en la poésie et en le rêve. Je disais Moustaki tout à l'heure dans la chanson. C'est que rêver, c'est déjà concret. C'est déjà autoriser un autre possible dans ce monde. Et il y en a qui le font mieux que d'autres. Quand on écoute Bob Dylan une heure en marchant, on sent que c'est possible. On sent que ce monde peut vibrer d'une autre vibration qui est déjà là. Voilà, c'est une fougue, un souffle. Et puis, l'air de rien, une grâce dans l'écriture mélodique et des textes. Mais bon, plus jeune, je ne le comprenais pas forcément. Mais c'est d'une délicatesse et en même temps d'une clarté. C'est très direct, Bob Dylan. Et en même temps, avec le temps, on se penche sur l'écriture des chansons. Qu'est-ce que ça a raffiné?
Pour vous, Cyril Mokayesh, on reste presque dans la même décennie, mais dans l'hexagone avec celui-ci.
La marée, je l'ai dans le cœur, qui me remonte comme un signe. Je meurs de ma petite sœur, de mon enfant et de mon signe. Un bateau, ça dépend comment, la rime au port. De justesse, il pleure de mon firmament, des années-lumière et j'en laisse.
La mémoire et la mer, Léo Ferré. Vous vous souvenez de votre première fois avec Léo Ferré?
Ouais.
Cyril Mokayesh, l'addiction a été immédiate?
Ouais, j'ai pris la foudre. J'ai découvert la chanson française à travers lui, en fait, vraiment. La chanson poétique, la chanson entière et sans retour, quoi. C'est quelqu'un qui arrivait à faire des chansons d'amour avec une forme de ferveur, des chansons politiques avec passion, qui prophétisait, qui était visionnaire, qui s'autorisait tout, quoi. Et quand j'ai pris ça dans la gueule, c'est vrai que je faisais du sport, du tennis, donc on en était loin. Et là, tout s'est arrêté. Je me suis dit, bon, si je pouvais me rapprocher de ce monsieur un jour, et même blanchi comme un cheval fourbu et tout, je voudrais, c'est ça que je veux faire, quoi.
Une chanson qui vous est chère aussi, hein, Arthur Teboul. Je crois que c'était presque la chanson que vous auriez aimé écrire.
Oui, c'est marrant quand vous avez demandé ça. Voilà, c'est bon, on s'y retrouve. Hein, le Ferré. Ouais.
Alors j'ai continué à fouiller.
La fiche
dans...
rouge, toi, t'as chanté.
Ouais, on reprend. Oui, c'est Léo Ferré qui chante Aragon aussi. Mmh. Mais je ressens la même chose que toi. C'est une immensité. Quand j'écoute La Mémoire et la Mer, après, je peux plus rien écouter de la journée. C'est pas possible.
Et pourtant, il va falloir continuer à écouter. Parce que j'ai continué à fouiller dans vos ADN musicaux. Et j'ai découvert que vous adoriez faire écouter cette chanson, Arthur Teboul. Qu'est-ce qu'on écoute, Arthur Teboul ?
Terry Callier. C'est un chanteur folk qui n'a pas eu le
chanteur américain. Ouais.
Ouais, américain, qui n'a pas connu le succès au moment où il a sorti ses disques. Donc il a fait son autre métier, qui était informaticien, je crois. Il a été redécouvert un peu sur le tard. Il a quitté ce monde il n'y a pas longtemps. C'est sa voix qui est merveilleuse. J'adore les bluesman, les chanteurs folk. On sent l'âme transiter tout de suite. C'est à la fois très simple et très dur à réaliser. Puis il a cette voix à la fois profonde et légère. Je vous invite à écouter tous ses albums, c'est merveilleux.
Pour vous, Cyril Mokayesh, c'est celle d'un Canadien qui joue sur la dissonance et les guitares bizarrement accordées.
Ouais.
Qu'est-ce que vous pouvez raconter à Cyril Mokayesh, à Arthur Teboul, pour lui donner envie d'écouter et de réécouter cette chanson de Mac DeMarco ?
Ouais, d'écouter cet artiste déjanté, sulfureux, complètement libre aussi, qui est auteur, compositeur, producteur. J'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un qui traîne au VIP de Saint-Tropez toutes les semaines.
Pas vraiment, non.
Mais c'est plutôt quelqu'un qui fait les choses dans son coin avec une espèce de fraîcheur, de folie aussi. Il y a un clip qui s'appelle de cette chanson, Kind of Woman, où c'est un plan séquence, il est déguisé en femme, il lui arrive un nombre de tuiles pas possible, des gens s'arrachent son visage, sa peau, lui mettre des trucs dans la gueule. Et puis lui, il est entre Jack Nicholson et Robin Williams dans Mrs. Doubtfire, quoi. Et ça se termine, il est nu, emballé dans du papier journal. C'est extrêmement bien fait. Et ça s'écoute comme ça dans le train, je dirais.
Alors, beaucoup de folk, hein, finalement, dans vos ADN musicaux respectifs, de la poésie également, une attention toute particulière à l'équilibre entre le sens, le son, et comme je sais que vous aimez quand même les pas de côté l'un et l'autre, que vous laissez traîner vos oreilles sur d'autres esthétiques musicales que celles défendues par l'acoustique, du coup, je me suis dit que vous seriez sensible peut-être à la proposition de Grand Ressac, un nom qui claque, c'est le projet de Timothée Demoury, un musicien qui, après une décennie berlinoise frénétique, a trouvé un second souffle sur les hauts plateaux de la Margeride en Lozère. Rien de vraiment bucolique pourtant dans sa musique inventive et robuste, où se télescope le besoin d'être en connexion avec les éléments, les programmations d'une boîte à rythme, des chœurs féminins et un spoken word pour exprimer la fragilité de l'existence.
Je suis passé des ruisseaux, gravi des éblis de roches, de pierres. Je remonte les pentes ici, le soir le ciel devient bleu clair. Intense et les nuages roses dansent, ces coquillages d'Italie. Une enveloppe dorée dans ma poche de parka usée me rappelle sans cesse à toi. Et depuis un moment déjà, je me demande pourquoi. Si ce désir de ville, ce désir de désert ne vaut-il pas mieux que toi. C'est m'avait prévenu que ça me tuerait, c'est m'avait dit que ça me détruirait. J'ai passé des ruisseaux, grimpé les pentes comme la Fario. Je suis les
passe vers les sources de Montpellier. Ce soir la ligne est rousse et je me demande pourquoi. Ici déterrer les roches, des rochers. Je veux vivre dans la lande ancienne et l'air gelé. Désir des villes, désir des déserts, ne vaut-il pas mieux que toi? C'est m'avait prévenu que ça me tuerait. C'est m'avait dit que ça me détruirait. C'est m'avait prévenu que ça me tuerait. C'est m'avait dit que ça me détruirait. Rendez-nous nos landes. Rendez-nous la lande. Que ça me tuerait.
Fario s'est signé Grand Ressac. C'est à retrouver sur son prochain EP La Montagne. Ça sort le 26 mai. Alors, Arthur Teboul, Cyril Mokayesh, est-ce que vous validez cette proposition de l'algorithme musical de Côté Club?
Ah ouais, l'algorithme est très bien fait. Hein.
Incroyable.
Mais de qui est-il, cet algorithme?
On ne sait pas, il se cache à l'intérieur de quelqu'un. De votre côté, Cyril Mokayesh.
Oui, 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 faut réécouter attentivement. Mais ouais, ce que j'entends me séduit déjà. Ouais.
Moi, je me demande qui est Seb, qui l'a prévenu.
Ouais, ce fameux Seb, ce mystérieux Seb, on va enquêter. Et ben ça marche encore une fois, hein, Laurent Goumar.
Ça marche toi tous les coups. Quelle intelligence, sans artifice.
Côté club.
Au bord de la mer.
Laurent Goumard.
Si, c'est ça.
Au bord de la mer. Au bord de la mer, déjà un poète pour ouvrir ce plateau déversoir, Arthur Teboul. Musique, Feu Chatterton. Parole, Jacques Prévert. Mais cette fois, ce soir, le poète, c'est vous qui signez ce recueil de 98 poèmes minutes, le déversoir aux éditions Segers, édition historique de la poésie.
Oui, oui, c'est un grand honneur. C'est vrai que j'ai eu l'habitude de lire dans cette collection des grands poèmes d'Aragon, d'Eluha, donc
c'est un honneur. Arthur Parteboul, 98 poèmes minutes. Alors les poèmes minutes, leur construction est conceptuelle, elle répond à un dogme, écrire à toute vitesse, entre 5 et 7 minutes. Date de naissance, le 12 janvier 2016, dans le métro. Que s'est-il passé à ce moment-là?
Bah, j'étais en train d'écrire un disque et on en parlait tout à l'heure avec Cyril, mais écrire des chansons, c'est à la fois notre nécessité et notre sacerdoce. C'est une purge en fait, quand on est obsédé par la précision, la sincérité, et ben trouver le mot juste, ça peut nous prendre des semaines et nous rendre un peu dingo. Donc on partage pas ces errances-là avec grand monde, parce qu'on on peut le trouver bizarre. Et donc j'étais dans le métro en train de me demander comment j'allais finir telle ou telle chanson, parce que j'étais en juin, avancé pour mon disque et qui sorte dans les temps. Et je me suis dit, mais écris ce qui te passe par la tête. J'étais déjà assez versé dans l'art des surréalistes.
Écriture automatique,
chez Breton, les cadavres exquis, c'est des choses que je pratiquais un peu. Les cadavres exquis plus que l'écriture automatique, je me suis dit, bon, juste pour me désangoisser, de manière un peu bête au départ, de noircir la page. Voilà, que cette page blanche soit pleine. C'est basiquement. Je me suis dit, écris. Donc j'étais sur mon strapontin, et puis j'ai commencé à écrire un texte comme ça, et frénétiquement, et ça me soulageait simplement de voir la page se remplir. Et puis j'ai eu tout de suite cette tentation de prédateur angoissé qui doit faire des choses. Ah, comment je vais me servir de ce texte? Il y a peut-être une idée à piocher ici, là, une forme. Et puis non, tout résistait. Donc au départ, j'étais un peu déçu. Et cette déception m'a sauvé quelque part. Parce que en voyant ce texte, ce poème, finalement, clos sur lui-même, eh ben, ça m'a détendu. Voilà. Il y a cette chose qui est là, qui ne sert à rien pour l'instant, mais ça m'a rappelé qu'on ne sait pas toujours à quoi les choses vont nous servir, et parfois à rien, et c'est peut-être comme ça qu'elles nous sont le plus utiles. Donc c'était mon premier poème minute, et puis j'ai recommencé les jours suivants.
Et ça a continué pendant 7 ans. L'aventure se poursuit aujourd'hui avec un nouveau rythme, je lis dans la préface, le cabinet. À l'heure où j'écris ces lignes, le déversoir s'apprête à ouvrir ses portes. Il aura très bientôt son adresse et son enseigne, ses 4 murs pour vous accueillir. Ce livre a donc aussi une visée publicitaire. Voici 98 poèmes minutes pour vous donner envie de venir chercher le vôtre, inédit, qui n'attend que votre venue pour naître et ne pourra s'écrire qu'en votre présence. C'est ce qui s'est passé, on en a parlé justement en ouverture, dans la première partie de l'émission. Vous avez eu 40 personnes qui sont venues vous visiter.
250
40 par jour. 240 par jour, c'est ouais. ça 250 donc sur une semaine. Dans ce cabinet, vous disiez tout à l'heure, et j'ai pas rebondi, que vous aviez mis sur le mur un dessin de Matisse, la danse. Pour quelle raison ce dessin-là précisément, Arthur Teboul?
Oh, à chaque fois, c'est souvent le hasard qui me guide. Hein.
Enfin là, un hasard pour aller chercher quand même le dessin.
Oui, c'était une chance, galerie, le hasard ouais. et la chance. En fait, c'est le Centre d'Art Format qui m'a prêté une pièce, un local. Parce que je tenais à ce que ce cabinet ait pignon sur rue. C'est très important pour moi. À force de me plaindre que la poésie n'habite pas la ville, le monde, et qu'elle soit loin de tout, faut pas parler, faut faire. Et je tenais vraiment à avoir une boutique, en fait, qui soit au coin de la rue. Et donc, je cherchais un peu comme ça, dans Paris, des amis, des gens que je connaissais. Puis j'ai eu la chance de rencontrer un ami généreux qui s'appelle Aurélien Jacquin, qui a ce centre d'art qui s'appelle Format, et qui m'a prêté une pièce. Et en discutant avec lui de ce que j'avais envie de faire, il m'a dit, mais tu sais, on a peut-être moyen de se faire prêter des œuvres. Et alors j'ai eu le luxe de choisir entre plusieurs œuvres de Henri Matisse. Je me dis, oui, celle-là est bien, là. Le jaune sur le mur bleu, c'est très bien.
C'est parti.
Et la danse, c'est un mouvement de danse. Et puis, c'est un dessin, c'est pas une peinture. Il y a quelque chose qui laisse de la place, qui laisse de la place. Comme un poème. C'est un véhicule qui fait travailler celui qui le regarde, celui qui l'entend, celui qui le lit. Le poème est le tableau. Et cette place-là, cet espace, il est essentiel pour qu'on s'invente. Notre propre histoire, c'est un miroir.
Dans quel état vous êtes quand vous écrivez ces poèmes, quand vous les improvisez?
Un étrange état entre le conscient et l'inconscient, quoi, entre l'abandon total et la pure présence et l'attention. Je crois que c'est aussi ce que je recherche au fond. Ça ressemble à la scène. Ces moments où on essaye d'atteindre la vérité profonde de l'instant présent, quoi. L'instant présent, quand on le vit, il dure. Alors, c'est un état comme ça dans lequel je plonge, qui est presque méditatif, presque hypnotisant pour moi-même. Et voilà, j'écris très vite.
Donc sur commande, puisque vous avez face à vous le commanditaire, qui vous êtes donc un poète public, les écrivains publics, ça se faisait payer. Ça coûte combien pour une minute?
Là, cette semaine-là, c'était gratuit.
Et après?
Parce que je tenais. Après, c'est une discussion hyper importante à avoir. Parce que pour moi, c'était l'inauguration d'un métier. Et maintenant que je l'ai vécu, c'est plus seulement une conviction, c'est une certitude que c'est un métier et que ça continuera à l'être. Parce que ce qui s'est passé dans le lien humain, la joie, même si c'est quelques minutes infimes, ce qui nous a liés avec les visiteurs, tellement puissant que je sais que ça sera un métier.
Et donc un métier mérite salaire?
Oui, un métier mérite salaire, parce qu'il faut pouvoir payer le loyer, il faut pouvoir payer les consommables, le personnel, parce que pour gérer les rendez-vous, souvent on a besoin d'un assistant, d'une assistante. Et le prix détermine beaucoup de choses. On peut mettre un prix élevé, on sait quelle clientèle on aura. Moi je pense qu'il faudrait l'indexer, pour ma part, sur le prix du paquet de cigarettes, à peu près. Paris, les loyers sont chers, à 10 euros... la séance, je pense que c'est pas rentable. Si on veut pouvoir gagner un SMIC, ça doit être autour de 15-20 euros à Paris, parce que les loyers sont particulièrement chers. Après, on peut imaginer d'autres formules, par exemple, que ça continue à être gratuit pour le public qui vient, mais faire une semaine ou deux pour l'art contemporain et être payé très cher, trouver un équilibre. Ou bien faire des prix variables. Comme vous voyez, c'est une question qui est extrêmement importante.
Mais c'est une question déterminante, ouais. Bien entendu, le prix à payer ouais. pour un objet culturel. On va vous écouter pour mesurer l'impact de ces textes. Que fais-tu dans la vie? C'est le titre. Réponse?
Alors ça, c'est un poème du recueil.
Ben oui.
Que fais-tu dans la vie? Je prie, je porte un enfant dans les bras, je chante, je passe des coups de fil, j'essaie de bâtir une cathédrale, un palais plutôt. Je rumine et peste. Je fulmine et teste, j'offre des fleurs et j'oublie de les arroser. Je marche dans la ville, j'essaie d'évacuer la colère qui souvent s'empare de moi. C'est un boa constrictor. Je me vois dans son ventre qui a pris mes contours. J'essaie de respirer là-dedans. Je médis un peu trop, c'est toujours trop. Je prends des tourbus, des trains. Je me prépare en coulisses, je me recoiffe compulsivement. Je mange 2-3 biscuits chocolatés. 4. Je bois de l'eau chaude infusée de thym, je mange des bananes, je glisse mon doigt et mon esprit dans les limbes des réseaux sociaux, ce revers. Je donne des ordres en faisant comme si c'était des suggestions. Je ne sais pas si c'est bien, je ne sais pas non plus si c'est mal. Je me gratte en divers endroits. J'essaie de garder à l'esprit que chaque jour compte, que chaque parole engendre, que tout le monde fait de son mieux. Presque tout le monde. Je prie à nouveau. J'applique une crème localement. J'écoute une parole de sage, j'écoute une bassesse. Je réponds tardivement à ses mails. Je ne garde pas mon calme.
J'adore la fin qui finit sur une négation. Ces poèmes, vous pourriez les mettre en musique ?
Eh bien, en ce moment, on est en résidence avec Feu.
Et Feu Chatterton au Louvre.
Ouais. Oui, au Louvre. Et c'est vrai que longtemps, je disais, bah non, je peux rien. Enfin, ils ont leur forme, ils vivent seuls. Mais en fait, c'est vrai qu'on est poussé naturellement à les mettre en musique. Ça répond pas forcément aux formes de la chanson qui est finalement pleine de contraintes merveilleuses, mais assez rigide quand même. Mais on travaille dessus, on fait de la musique avec ces textes-là. Ouais.
Je lisais dans un portrait plus jeune que vous chuchotiez des poèmes à l'oreille de vos compagnons quand vous étiez au lycée, et à l'oreille des filles.
Oui, je l'ai fait, c'est vrai.
Aussi. Ouais. Tout le monde trouvait ça normal ?
Non, personne, mais je crois
non,
que
vous acceptez, tel que vous êtes. Arthur Teboul, on reste dans le poème. Connaissez-vous ceux de Marceline Desbord-Valmore ?
Un petit peu.
Ezaquiel Pélès les met en musique. Dors-tu ? Pas tout de suite, vous êtes sur France Inter.
Et toi, dors-tu quand la nuit est si belle ? Quand l'on me cherche et me fie comme toi ? Quand je te donne un cœur longtemps rebelle ? Dors-tu ma vie ? Où rêves-tu de moi ? T'aimes-tu dans ton âme confuse les doux secrets qui brûlent entre nous, ces longs secrets dont l'amour nous accuse, viens-tu les rompre en songe à mes genoux. Dors-tu ma vie ou rêves-tu de moi, rêves-tu de moi. Dors-tu ma vie ou rêves-tu de moi, rêves-tu de moi. Dors-tu ma vie ou rêves-tu de moi, rêves-tu de moi. Rêves-tu de moi, rêves-tu de moi. Aimais-tu dans ton âme confuse les doux secrets qui brûlent entre nous, ces longs secrets dont l'amour nous accuse. Viens-tu les rompre en songe à mes genoux. As-tu livré ta voix tendre et hardie aux fraîches voix qui font trembler les fleurs. Non, c'est du soir la vague mélodie, ton souffle encore n'a pas séché mes pleurs. Dors-tu ma vie ou rêves-tu de moi, rêves-tu de moi. Dors-tu ma vie ou rêves-tu de moi, rêves-tu de moi. Dors-tu ma vie ou rêves-tu de moi, rêves-tu de moi. Dors-tu ma vie ou rêves-tu de moi, rêves-tu de moi. As-tu livré ta voix tendre et hardie aux fraîches voix qui font trembler les fleurs. Non, c'est du sang la vague mélodie, ton souffle encore n'a pas séché mes pleurs. Garde toujours ce douloureux empire sur notre amour qui cherche à nous trahir. Mais garde aussi son mal dont je soupire, son mal est doux, bien qu'il fasse mourir. Dors-tu ma vie ou rêves-tu de moi, rêves-tu de moi. Dors-tu ma vie ou rêves-tu de moi, rêves-tu de moi. Rêves-tu de moi, rêves-tu de moi. Dors-tu ma vie ou rêves-tu de moi, rêves-tu de moi. Rêves-tu de moi, rêves-tu de moi, rêves-tu de moi.
Côté club, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Comme on dit en séance, Arthur Teboul, merci à vous.
Merci beaucoup.
Votre recueil de poèmes, Le Déversoir, apparu aux éditions Segers. On vous retrouve avec les Feux Chatterton à l'Auditorium du Louvre pour une masterclass. Ce sera le 22 mai à 18h30 et ensuite trois concerts les 22, 23 et 25 mai. Cyril Mokayesh, merci à vous.
Merci beaucoup.
L'album, c'est Le Temps de Vivre. Il reprend les chansons de Georges Moustaki. Je signale par ailleurs qu'un coffret CD vient de paraître avec les titres emblématiques de Moustaki à l'occasion du 10e anniversaire de sa mort. Et on a rendez-vous avec vous, Cyril Mokayesh, le 28 juin au Théâtre de l'Atelier à Paris, le 14 juillet au Franco de La Rochelle. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain, pas de côté club, mais un concert double affiche. Fatoumata Diawara et Tina Riwen, un concert animé par l'ami Mathieu Conquet, en direct et en public au studio 104. Marion.
Et nous, on se retrouve jeudi avec Octave Noir, son nouvel album Les Airs Digitaux, Loïc Durie, le cinéaste Cédric Clapiche pour la série Salade grecque.
Merci à toute l'équipe du soir. Je regarde derrière la vitre, il y a Stéphane Le Guenec, notre grand réalisateur. À la technique ce soir, Sofiane Aktib. Programmation, Marion Guilbeault, Alexis Goyer, Virginie Rouzic et enfin en playlist, c'est Valentine Chedebois. Côté club, je tire le rideau de fer, que la musique soit avec vous.
Oh, c'était formidable.
C'était le souffle de l'âme qui posait des mots sur vaguement des notes.
Côté.
Oui.
Club.
Bye, bye.